Alors, tout sera détruit. On aurait espéré avoir un évangile qui nous remonte le moral. C'est raté. Il faudra revenir dimanche prochain. Quand tout sera détruit, Jésus ne parle pas seulement du temple. Il y a toute une litanie qu'il va prendre. Il dit, c'est aussi les nations. Le nombre de pays en guerre a doublé ces dernières années. On dénombre un peu plus que 70 conflits armés dans le monde. Même l'Europe est touchée. La terre aussi est ébranlée par son lot de catastrophes naturelles. Vous prenez les populations, hein, quand on daigne un peu élargir notre regard, on voit des populations qui sont meurtries par des famines, des épidémies, des catastrophes, tout un lot d'injustices, de persécutions. Les chrétiens ont été, sont et seront persécutés. Et puis, quand on regarde l'Église, qui est normalement une institution stable, hein, « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église », c'est stable. On voit qu'elle est ballottée par une avalanche de scandales. Tout sera détruit. Une nation est faite pour être stable. La terre est faite pour être stable. L'Église est faite pour être stable. Et pourtant, tout est ébranlé. Tout sera détruit. Toutes ces réalités, en fait, partagent un destin commun avec le Christ. Dans l'évangile de Jean, là on est chez Luc, hein, mais dans l'évangile de Jean, il dira « Détruisez ce temple !» Il parlait du temple de son corps, de sa passion. Et malgré tous ces signes, malgré ce déchaînement du mal, qu'il soit physique, un séisme c'est un mal physique, une maladie c'est un mal physique, ou alors un mal moral, un manque de charité c'est un mal moral. Devant le déchaînement de Satan, il y a une espèce de sidération. Et pourtant, ce ne sera pas aussitôt la fin. Il n'y a pas de signe clair de la fin. Pas de catastrophisme à entretenir. Mais par contre, une attitude. Ne soyez pas terrifiés, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Quand Paul a prêché l'imminence de la fin des temps à la communauté de Thessalonique, c'est notre deuxième lecture, que font les Thessaloniciens ? Nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. Ben oui, puisque le Christ revient demain, à quoi ça sert de se bouger ? Ben ouais, reposons-nous. Ben oui, mais tu ne sais ni le jour, ni l'heure. Alors, entends cet appel de saint Paul, qu'il travaille dans le calme. Ne démissionne pas, continue de bosser. J'aime bien cette expression, hein, travailler dans le calme. C'est-à-dire que bon, c'est un vrai travail. Il y a un vrai travail à faire, il y a une vraie mission à remplir. Et donc on n'est pas invité à la paresse. Et en même temps, c'est dans le calme. Il n'y a pas une espèce d'excitation, d'activisme. Non, non. Travailler dans le calme. Il faut conserver les deux. J'aime beaucoup cette phrase de Saint José Maria. Fais ce que tu dois et sois à ce que tu fais. Fais ce que tu dois. T'as ton devoir d'État. Mais fais-le, mais sois à ce que tu fais. Il y avait un passage du Talmud, hein, vous savez, c'est ce commentaire rabbinique de la Torah qui parlait de cette fin des temps, de ce retour du Messie, qui disait, mais si tu plantes un arbre et qu'on t'annonce que le Messie revient de suite, finis de planter ton arbre. C'est pas une indifférence vis-à-vis du Messie, de son retour, mais c'est de mettre, mais maintenant, dans toute ta tâche d'homme le Messie. Tu es capable de mettre le Messie dans toute ta tâche d'homme dès aujourd'hui. Attends pas la fin des temps. Et c'est peut-être pour ça que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut mettre le Messie. La persévérance, c'est l'autre nom de la vertu. On devient saint comment ? Par la persévérance. Qu'est-ce qu'on regarde en premier chez une personne qui est morte en odeur de sainteté pour voir si on va ouvrir un procès en canonisation ? C'est l'héroïcité des vertus. Voilà, telle personne, elle a persévéré jusqu'au bout. Elle a été héroïque dans ses vertus. Et en fait, ça a transformé son humanité en profondeur. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu ? C'est une disposition stable. Je continue la définition après, hein. Mais une disposition stable. La terre n'est pas stable, l'église n'est pas stable, les nations ne sont pas stables. Là, c'est une disposition qui est stable. On retrouve nos appuis. Acquise par répétition, pour faire beaucoup de répétitions. Prenez l'analogie avec le sport, avec la musique, il faut faire beaucoup de répétitions pour arriver à un certain niveau. À faire le bien facilement et avec joie. Mais au début, bien sûr, il faut faire de gros efforts. Quand on reprend l'école ou quand on retourne au boulot après les vacances, se lever tôt le matin, faire un gros effort. Après, quand on a pris le rythme, ça nous demande moins d'efforts. Voilà, gros effort au début. Et puis, après, ça devient une seconde nature. C'est comme une seconde nature. Prenez l'image toute simple d'une fusée qui décolle, qui consomme énormément de carburant au début et qui, après, est en apesanteur. Elle est pensée dans la seconde nature. C'est facile pour elle. Disposition stable acquise par répétition à faire le bien facilement et avec joie. Voyez la force de l'habitude dans notre vie. Plus j'écoute ma conscience morale qui me dit « fais ce bien parce que c'est bien et évite ce mal parce que c'est un mal », plus je l'écoute, plus en fait cette disposition-là, plus cette habitude-là, cet habitus, en fait il va descendre, il va s'installer en moi. Moi je pense à ce prêtre qui connaissait tous les SDF de la ville. Et pour lui, c'était facile, c'était naturel. Et en fait, on voyait ses parents, on voyait ses grands-parents, et en fait, ils avaient fait la même chose, et ça s'était transmis. Et donc, c'était facile pour lui. C'était de l'ordre de la vertu. Alors nous, on voyait faire ça, on prenait un peu le pas, mais pour nous, ça nous demandait un gros effort. Déclinez ça à toutes les sauces de votre vie, mais ça demande un gros effort au début, et puis après, ça devient une seconde nature. Plus on est jeune, pour les jeunes, plus on est jeune, plus on est plastique, plus on est modelable, moins on a pris les mauvais plis comme vos parents. Vos parents, ils ont pris des mauvais plis. Voilà, et des fois, ces mauvais plis, on les traîne jusqu'au bout de notre vie. Patatras. Hier soir, je repassais mon aube pour être tout beau ce matin. Je me suis dit, mince, j'ai fait des mauvais plis dans mon aube il y a quelques temps. Et après, c'est difficile de les récupérer au repassage. Prenez dans notre vie tous les mauvais plis qu'on prend. Un jeune n'a pas ses mauvais plis. Et donc, apprenez dès votre jeunesse à prendre ses bons plis. À prendre ses bons plis, de la charité, de la vertu. Comme ça, vous serez plus saints que nous. Pas mal, non ? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. J'ai pas eu de révélation cette nuit sur le retour du Christ, mais je pense que nous avons un peu plus que 3 jours pour installer ces vertus dans notre vie. Une question, quelle vertu je veux acquérir par quelle répétition ?